J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Moudima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
À tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs en RDC. De plus en plus d'observateurs estiment que l'attraction qu'exerce la politique sur les intellectuels congolais, même les gens de tous bords, constitue un frein à l'émergence d'une classe moyenne de nos jours. Faire de la politique apparaît comme le chemin le plus rapide pour s'enrichir. S'il est vrai que l'État congolais essaie tant bien que mal de booster les secteurs de l'entrepreneuriat et d'attirer les investisseurs étrangers dans plusieurs secteurs de la vie nationale, il s'observe cependant cette tendance pour bon nombre de Congolais de chercher des voies et moyens pour se frayer un chemin sur la scène politique et profiter des largesses et des privilèges liés à l'exercice du pouvoir. À mesure que se succèdent les différents gouvernements depuis l'avènement des élections démocratiques en 2006, les politiciens ne cessent de jouer des privilèges au profit de certaines faiblesses de l'appareil judiciaire congolais pour s'enrichir facilement sur le dos du contribuable congolais, d'où l'impérieuse nécessité, estime certaines opinions, de mettre en place de lois et des mécanismes visant à freiner cette course vers la politique et à décourager tous les opportunistes. Que pensez-vous de cet intérêt croissant des Congolais à se lancer dans la politique et comment y mettre fin? Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Vous pouvez s'écrire à l'adresse pa@radiocapi.net ou réagir dans le groupe WhatsApp de Parole aux auditeurs ou intervenir en direct en composant les zones en 971-680-79. JC Siala est à la mise en eau de ce magazine et Julie Feza Bongonda sur la réalisation et la coordination micro C. Marcel Ngomombala, toutes et à tous, et sans condition d'écoute de ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs.
Parole aux auditeurs.
Bienvenue dans ce nouveau numéro des Paroles aux auditeurs. Merci d'avoir été nombreux à réagir déjà sur la page Facebook Paroles aux auditeurs. Et nous rappelons le numéro d'appel si vous êtes intéressé pour réagir par rapport à ces sujets. Il faut composer les zones en 971-680-79. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir dans ces studios Maître Dieudonné Tshibwabwa, avocat au barreau de Bruxelles en Belgique, de Kinshasa Gombe et de Kananga en RDC. Maître Dieudonné Tshibwabwa, bonjour.
Bonjour Marcel et bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
C'est encore un plaisir pour nous de vous recevoir dans ce studio cette fois-ci pour parler un peu de ce phénomène de société avec en tout cas beaucoup d'intellectuels congolais et notamment même des gens de tous bords qui s'intéressent à la politique simplement parce qu'on s'est rendu compte que même depuis, même peut-être bien avant l'époque du mobutisme, c'était le cas, mais depuis 2006 avec le déclenchement du processus électoral en RDC, beaucoup avaient estimé que les choses allaient vraiment changer, mais on se rend compte qu'avec les différents gouvernements qui se sont succédés depuis 2006, les politiciens congolais jouissent beaucoup de privilèges et l'appareil judiciaire congolais, on le dit, qui est malade, a certaines faiblesses qui fait qu'il n'y a pas de sanctions et tout le monde aujourd'hui veut se lancer dans la politique. Comment analysez-vous d'abord, en tout cas, ces phénomènes qu'il faut appeler des sociétés où beaucoup de gens s'intéressent à la politique?
Bon, Marcel, pour analyser ça, j'aimerais que nous puissions juste regarder ce qui s'est passé en décembre 2023. Nous avons eu donc les élections à plusieurs échelles. Et vous allez voir qu'il y a eu presque 30 000 personnes qui ont candidaté. Et parmi les 30 000, vous allez voir qu'il y a plus que la moitié qui étaient des jeunes qui variaient de 20 ans jusqu'à une quarantaine d'années. Ce sont certaines statistiques qu'on a pu constater. Alors moi, je me suis deux fois permis de poser la question à la plupart des personnes qui candidataient, quelles étaient leurs ambitions en matière politique. Pourquoi étaient les candidats au niveau des partis regroupements. J'étais surpris de voir que la plupart n'avaient même pas de projet clair. Ils s'appuyaient simplement sur un parti, un regroupement politique, une autorité morale, à cause des affinités ou autre. Mais c'est la raison cachée, c'était un problème de positionnement, de se retrouver. Alors, la politique ici est devenue un fait sociétal, parce que les gens pensent qu'en allant en politique, ils peuvent avoir un mieux-être. En fait, on va en politique parce qu'on n'a pas d'autre choix. Et les gens ont comme reflet de réussite les politiciens. Quand une personne devient politicienne, ou est politicienne plutôt, et qu'elle a un poste de responsabilité, les gens voient que son niveau social change.
Et c'est du jour au lendemain.
Du jour au lendemain, ouais. Et c'est même flagrant. Et c'est ça le problème. Marcel, je vais vous dire une chose. On ne va pas en politique pour changer son niveau social. On va en politique parce que on veut gouverner, on veut diriger une cité. Vous savez, politique, étymologiquement, et politique, police, ce sont des mots qui ont leur origine dans la Grèce antique. Politeia, l'art de diriger une cité. Quand une personne veut s'engager en politique, c'est d'abord une conviction, parce qu'elle estime qu'elle a les moyens pour diriger. Mais diriger égale aussi rendre des comptes. Et si on va en politique pour s'enrichir, pour pouvoir se retrouver, pour avoir un positionnement. Et vous allez voir que la plupart de personnes qui s'engagent maintenant dans la politique n'ont pas d'idéal. C'est ça que nous déplorons. Vous savez, généralement, je dis, ce n'est pas forcément une obligation, la politique va de génération en génération. C'est-à-dire que vous avez un parent qui était politicien, vous avez été formé dans la politique, vous-même en bas âge, et vous avez goûté ce produit politique, et ça vous démange tellement que vous entrez dans la politique. C'est pour cela que vous allez voir dans la plupart des pays, c'est toujours père-office. Mais il y a des exceptions qui existent. Des gens se lancent dans la politique eux-mêmes et qui commencent une nouvelle histoire dans la politique pour eux et les générations futures. Alors le constat ici au Congo, c'est que beaucoup de gens sont des générations spontanées. Ils vont dans la politique, ils veulent commencer la politique. Mais il faut aller dans les béaba de la politique. C'est quoi la politique? Pourquoi vous voulez la politique? Et Marcel, la grande difficulté, c'est que beaucoup sont ignorantes même de ce que c'est la politique. D'où vous allez voir une personne qui a des responsabilités, qu'on lui donne une responsabilité, mais qui ne réalise même pas que quand on dit que vous êtes responsable, c'est-à-dire que vous êtes aussi redevable. Et c'est ça la difficulté. Vu que nous sommes dans une situation de non-redevabilité, les gens se permettent d'entrer dans la politique, d'occuper des postes, de sortir, de faire du mal à la cité, au lieu de faire du mal à la cité, ni vu ni connu, parce que le système est dans l'impunité. C'est ça que nous devons déplorer. Et moi, je ne peux que, à mon niveau, moi je suis fils de politicien, je suis né dans la politique. Voilà, pour la petite histoire. Donc, j'ai la politique dans l'âme. Mais ce n'est pas pour autant que j'encourage les gens à faire la politique parce qu'il y a beaucoup de méandres dans la politique. C'est tout un art, en fait. Il y a l'art de la politique. Et dans cet art de la politique, c'est un jeu de chaises musicales. Des fois, on perd, des fois, on gagne. Mais sans pour autant en faire des sentiments personnels et avoir des émotions. Mais, quand je regarde ce qui se passe au Congo, j'aimerais simplement encourager les gens à savoir qu'on peut réussir différemment dans la vie. Et d'ailleurs, c'est ce qui est, que nous constatons dans la plupart des pays développés, les gens réussissent dans l'entrepreneuriat.
Ben voilà, même ici, c'est ce qui est vrai. On encourage le jeune à se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a même des pites qui tombent, beaucoup de structures qui ont été mises en place pour encourager le jeune à aller dans l'entrepreneuriat. Maintenant, comme l'impression qu'il n'y a pas un certain engouement, simplement, on se rend compte que là, il faut fournir beaucoup d'efforts et il faut fournir beaucoup d'efforts plutôt qu'à la politique, on se sert facilement.
Non, nous avons un problème culturel. Quand nous regardons notre système éducatif, c'est pas un système qui permet à la personne de pouvoir elle-même prendre des initiatives. Malheureusement, c'est hérité de l'époque de la colonisation. Notre système ne nous permet pas de pouvoir faire sortir ce qu'il y a de meilleur dans la personne, contrairement au système anglo-saxon. Les anglo-saxons, dès le bas âge, on vous apprend à être autonome et indépendant. Ici, ce n'est pas ça le cas. Je propose de mettre en œuvre des mécanismes d'encouragement et de formation pour que les gens sachent c'est quoi être un entrepreneur. Et vous savez, Marcel, quand vous circulez à Kinshasa, vous allez voir des milliers de pseudo-entrepreneurs. Celui qui vend, celui qui est en train de vendre des biscuits dans la grande rue, dans les grandes artères, c'est un entrepreneur. Parce qu'à ce niveau, il entreprend de vendre. C'est maman, maraîchère, je suis entrepreneuse. Il y a plusieurs modes d'être d'entrepreneuriat qu'il faut simplement essayer de canaliser et de former pour aller de l'avant. Mais l'État doit mettre en place aussi des mécanismes. C'est vrai qu'il y a des lois qui existent. Mécanismes de formation, mais aussi d'encouragement. Comment voulez-vous entreprendre si vous n'avez pas un minimum? C'est ainsi que ça va décoller sur tout ce qui est crédit, microfinance et tout ainsi de suite pour encourager les entrepreneurs. Mais au-delà de cet aspect-là, il y a aussi l'aspect fiscal. Ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, quand vous allez commencer un petit business, je vais être un peu plus clair, vous allez avoir une charge étatique qui viendra, divers impôts. Vous allez voir tout ce qui va courir vers vous, qui ne vous laisse pas la liberté de commencer votre business et d'aller plus loin. Nous sommes un pays hautement taxé. Et ça, c'est un problème au niveau de l'État. Il faut de revoir ça. Mais au-delà de ça aussi, le problème, c'est que on n'a pas orienté, la politique n'oriente pas les gens à aller vers les bonnes formations pour l'entrepreneuriat et vers aussi les emplois utiles, au-delà de l'entrepreneuriat et des emplois utiles. C'est ainsi que l'erreur est que tout le monde pense qu'on doit devenir un universitaire pour réussir. Non, Marcel. Il y a des emplois utiles. Il y a des formations utiles qui vous permettraient d'entreprendre et de pouvoir vous en sortir. Bon, nous qui évoluons dans les deux continents, vous savez, il y a des fois des anecdotes, on vous dit qu'un jour, un médecin a eu un problème avec sa toilette. Et il a dû faire appel à un plombier. Et quand le plombier arrive, le plombier fait juste une minute, il débouche, le plombier lui demande, il réclame une valeur de 200 dollars, il n'y a pas de problème. Le médecin dit, mais 200 dollars pour deux minutes? Le plombier dit, oui, je sais, mais c'est mon travail. Alors le médecin dit au plombier, si je savais, j'allais être plombier. Le plombier dit, c'est pour ça que moi qui étais médecin, je suis devenu plombier. Ouais, non. Oui. Non, pour vous dire, on a valorisé certaines professions. Ce qui n'est pas le cas ici. C'est ainsi que on comprend que tout le monde veut se lancer dans des études universitaires qui ne servent à rien parce qu'on forme des chômeurs. Et ces chômeurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne trouvent pas mieux que d'aller se mettre dans les partis politiques pour espérer trouver un mieux-être. Donc, devons réfléchir sur la politique. Ça va très loin. Ça commence déjà de bas âge. Comment orienter les enfants? Comment exploiter les talents qui sont là? Et tout ça, on doit mettre en place des mécanismes pour orienter la population. Bon, vous savez, j'écris beaucoup dans les tribunes dans ces matières et j'ai l'impression que la situation sociale ne permet plus aux gens de réfléchir à long terme. C'est ça la difficulté. Mettre tous les paniers dans la politique, c'est simplement dommage parce que la politique seule ne peut pas soutenir l'économie d'un pays. D'où besoin d'avoir de former des entrepreneurs, de les encourager et de mettre des mécanismes qui leur permettent de pouvoir émerger.
Mais aussi des mécanismes pour décourager tous les opportunistes. Je m'en vais par exemple lire quelques réactions. Il y a par exemple Maître Ray qui nous écrit depuis un Bougimaï. Aujourd'hui, tout le monde en vit la politique au détriment de l'entrepreneuriat qui est un facteur de développement. Il pense qu'en politique, on trouve l'argent facilement sans aucun effort. D'ailleurs, si on réduisait les trains de vie des institutions et les salaires, ils ne vont plus faire la politique. Ils suivent aussi les privilèges en exception de fonction. L'État doit penser responsabilité en offrant de l'emploi aux citoyens, en attirant les investisseurs étrangers d'assainir le climat des affaires. À ce moment-là, on peut réduire sensiblement le taux du chômage. Les jeunes doivent cesser de suivre les politiciens, doivent se prendre en charge au lieu d'être des acclameurs. Il y a également Yves Mouya qui nous écrit, c'est un institut conséquent de plusieurs dictatures qui se sont succédées dans notre pays lors du déclenchement du processus démocratique en 1990. La dictature pour étouffer l'opposition démocratique avait procédé à la création de plusieurs partis politiques sans base base ni idéologie afin d'identifier l'opposition et faire les jeux de dictature. Si on pouvait avoir du groupe de politiciens corrompus qui changeaient de position chaque jour, ces utilisateurs étaient à la base de la plus longue transition que nous avons connue au monde. Voilà. En tout cas, beaucoup de réactions par rapport à ce sujet. Là, aussi Simon Sil qui nous écrit ceci. Les utilisateurs congolais ou pas se font aliénés par la submersion politique des tous bords, qu'on a l'impression comme si ces pays appartiennent aux seuls politiciens et nous autres qu'on aurait un pays de réserve quelque part. Les politiciens se jouent de nous comme si nous ne savions pas l'important d'avoir une nation. Pour en avoir le preuve, la transhumance politique explique le non-sérieux des Congolais. La politique prend tout. Voilà. Voilà beaucoup, beaucoup de réactions par rapport à ça. Et maître, on revient à vous. Le temps pour nous aussi d'avoir déjà les avis de nos auditeurs qui aimeraient bien intervenir. Nous avons Sylvain qui nous appelle depuis Mayagui et Madame Claudia qui est à Kolwezi. Bienvenue. Si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix, c'est votre magazine des champs citoyens. Parole aux auditeurs. Nous parlons aujourd'hui de ce phénomène qui, en tout cas, qui semble un phénomène de société, de plus en plus de gens s'intéressent à la politique simplement parce qu'ils estiment que, au vu de ce qui se passe dans le pays, c'est une façon plus rapide de s'enrichir. Si vous voulez intervenir, composez les 09 76 80 79.
Parole aux auditeurs.
Sylvain nous appelle depuis Mayagui. Sylvain, on vous écoute.
Mon frère Marcel, je vous salue. Je salue la pertinence des analyses de l'invité. Alors, lorsque je réfléchis sur le sujet d'aujourd'hui, je me suis posé une seule question. Quel est le modèle de la société que nous voulons avoir dans ces pays? En me posant cette question, j'ai identifié cinq problèmes. Le premier problème, c'est que nous sommes dans une société dans laquelle l'ambition financière et économique s'y plante tout. Nous vivons plus à cause d'argent. Et c'est pour cela, vous vous posez la question, pourquoi tout le monde veut aller à la politique, puisque c'est le chemin raccourci. La deuxième chose, nous sommes dans une société dans laquelle, puisque déjà lorsqu'on a l'ambition financière, l'ambition d'argent, nous voyons aujourd'hui ce qu'on appelle le cambriolage financier opéré par les hommes politiques. Il faut automatiquement chercher la protection judiciaire. Puisqu'on ne peut pas se foudroyer dans la malversation financière comme c'est ça l'image de la société, et cela s'opère dans le monde politique, il faut maintenant chercher la protection judiciaire. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a un ministre qui vole de l'argent, il sort dans un conglomérat à deux, à trois, l'un est protégé, les autres ne sont pas protégés. Troisième chose, puisque je me suis posé la question, quel est le type de la société que nous avons? Nous sommes dans une société où les gens aiment l'estime et le prestige. Les Congolais, c'est ça. C'est le prestige et l'estime. Et j'ai apprécié ce que l'invité a dit. Nous sommes dans une société remplie de farceurs. De farceurs. Et nous nous retrouvons dans la politique. Monsieur Marcel, vous vous posez la question depuis 1960. Pourquoi ce pays ne se développe pas? Le cinquième problème que j'identifie, c'est puisque nous n'avons pas trouvé des hommes d'art de servir et de bâtir une cité. Des personnes que je peux appeler des maçons, des architectes, des constructeurs qui peuvent impacter positivement la transformation quotidienne de la cité, les vécus quotidiens. Voilà que l'invité a raison de dire qu'il faut rapidement initier une société des entrepreneurs, une société dans laquelle les formations professionnelles continues sont menées pour que les gens ne croient pas que c'est seulement dans la politique qu'il faut penser gagner la vie. Et je m'arrête là, parce que je ne vais pas aller très loin, mais c'est Marcel, mais je dis une chose. Aussi longtemps que le Congo sera un pays de farceurs et des hommes de prestige, ce pays ne changera pas, même si on enverrait des anges venir dans ce pays, rien ne changera. Il faut absolument remodeler cette société, lui donner une ambition, et l'ambition doit être celle de transformer les potentiels naturels que nous avons, et c'est ça l'entrepreneuriat, avec de la formation continue, pour que tout le monde se retrouve finalement être des Congolais.
Voilà, merci Sylvain, depuis Magui. Madame Claudia, vous êtes à Kolwezi, on vous écoute. Madame Claudia, vous avez la parole.
Bonjour Monsieur Marcel, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs. Excellente thématique.
Il est vraiment temps de débattre et de prendre des mesures urgentes pour sauver et délivrer la jeunesse et le futur du choix de ce pays, de ce gouffre et les orienter vers l'entrepreneuriat. Ils sont vraiment dans une grande distraction. Ils ne veulent pas s'informer, pire encore, ils ne veulent pas s'informer et on s'attend à quel genre de développement sans information. L'information est la clé de tout développement. Et s'agissant de la lecture, là, n'en parlons même pas, ils n'ont rien à foutre de la lecture. Ils ont tous les outils à leur disposition pour devenir des génies, des savants. La technologie a déjà tout. La technologie leur a déjà tout offert. Mais malheureusement, ils ont choisi de se spécialiser en ignorant. Quand on les convie à prendre part aux conférences ou aux activités où ils peuvent bénéficier des différentes informations pouvant les aider à entreprendre, ils refusent de répondre massivement. Des fois, ils existent à fait que l'organisation puisse leur assurer les transports. Et ça, c'est vraiment insensé. On t'évite à prendre part à une activité où tu auras l'information qui va te permettre de prendre et tu évites à ce qu'on paye pour toi le transport. Ça, ça n'a pas vraiment de sens. Notre ONG, le REPAF, a souvent organisé des activités. Même la semaine passée, nous l'avons fait en l'occasion de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. On a lancé des invitations dans beaucoup de groupes. Tout ça, mais les jeunes n'ont pas répondu massivement. Alors, on ne sait pas à quoi ils s'attendent. Ils passent leur temps où ils sont, ou sur des réseaux sociaux, en train de chercher quoi qui va vraiment contribuer à leur développement.
Mais vous avez dit, vous avez dit, Madame Claudia, c'était par rapport à la semaine de l'entrepreneuriat, vous avez invité les jeunes, dans le cadre de votre ONG certainement, pour leur parler de l'importance d'entreprendre. Oui. Mais il y a un auditeur qui a réagi. Lorsqu'il y a des politiciens qui les appellent, ils viennent acclamer pour après avoir 2 000-3 000 francs.
Oui, et ça aussi c'est une mauvaise habitude. Les politiciens vous appellent chaque fois pour vous donner l'argent pour les transports. Bon, ils sont des politiciens, mais nous, des ONG. On n'a pas à leur payer les transports pour qu'ils puissent tenir des informations qui vont leur permettre d'entreprendre. Ça, c'est aussi un problème sérieux. On ne peut pas donner, on vous invite pour vous donner de l'argent pour les transports. Non, ça, c'est vraiment insensé.
Voilà, merci beaucoup, Madame Claudia.
Oui, pour finir.
Allez-y.
Ok, Monsieur Marcel, pour finir, je rends des vifs hommages à tous les jeunes qui se battent pour entreprendre, malgré les difficultés qu'ils rencontrent, mais ne cèdent pas. Merci beaucoup.
Voilà, merci de rendre hommage à tous ces jeunes et de les encourager surtout à ne pas se laisser sous la botte des politiciens. Merci, Madame Claudia, depuis Clozy. Peter Maboudi, vous êtes à Kinshasa, on vous écoute,
merci,
vous avez la parole.
Merci, Monsieur Marcel.
Bonjour, Marcel,
bonjour à tous ceux de Radio Okapi, bonjour à tous ceux qui ont intervenu avant moi. Monsieur Marcel, ce qui crée l'engouement des jeunes dans la vie politique, c'est premièrement l'enrichissement facile et illicite de ces jeunes au sein des partis politiques. Deuxièmement, c'est la conquête du pouvoir, voir le pouvoir gérer tout ça. Et troisièmement, c'est soustraire de la justice, parce que juste quand on est dans un parti politique, les jeunes espèrent que, et là, il y a les hommes intouchables, et même si on arrivait à commettre certains actes, il y a une procédure pour être justiciable, tout ça. Et pour mettre fin à ce qui se passe dans notre pays, où les jeunes oublient même la notion d'entrepreneuriat, Monsieur Marcel, il faut revoir premièrement l'article 11 de notre Constitution, qui a consacré le multipartisme, où aujourd'hui, avec plusieurs partis politiques, les jeunes cherchent où trouver quelque chose, tout ça, après le long moment des fois de chômage pour certains, et le manque de moyens, de conditions de vie favorables, ils adhèrent dans des partis politiques, comme vous avez même bien si noté, là on trouve mieux facilement l'argent, les petits moyens pour subvenir à leurs besoins. Justement, si on arrivait à résoudre la question des multipartismes dans notre pays, je crois que ça pourra réduire le taux d'engouement de beaucoup de jeunes au sein des partis politiques. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut revoir également la loi portant création et fonctionnement des partis politiques dans notre pays. Beaucoup de jeunes adhèrent dans des partis politiques, M. Marcel, non seulement par rapport à la vision, ni moi à l'idéologie, mais plutôt justement pour satisfaire les besoins individuels, tout ça, de certains égoïsmes, tout ça. Et également, troisièmement, s'il faut vraiment résoudre la question des jeunes au niveau de l'entrepreneuriat, monsieur Marcel, il faut également mettre en place le partage équitable de nos ressources, des revenus nationaux. Pourquoi beaucoup de jeunes vont en partir dans les partis politiques? C'est justement pour trouver mieux. Parce qu'on sait que dans les partis politiques, combien de députés sont payés, combien de ministres sont payés, combien de mandataires aujourd'hui qui sont politisés sont payés. Et justement, quand ils vont dans des partis politiques, c'est pour s'enrichir de manière illicite. Et également, il faut nécessairement encore revoir, M. Marcel, notre système éducatif. Aujourd'hui, dans beaucoup d'universités, beaucoup d'écoles, en commençant par les primaires, maternelles, pour bien dire, donc on nous apprend qu'à gérer et non plus à créer. Si dans beaucoup d'universités, beaucoup d'écoles, on forme des demandeurs d'emploi et non des créateurs d'emploi, je sais que beaucoup de jeunes seront dans la délinquance et ça leur pousserait beaucoup plus d'être dans des partis politiques. Troisièmement, M. Marcel, c'est la bonne gouvernance. Si on arrivait à instaurer une bonne gouvernance au sein de notre pays, je crois que chacun pourra se retrouver. La bonne gouvernance sur tout le plan, sur le plan infrastructurel, parce qu'il y a beaucoup de jeunes également, du fait qu'ils ont des idées, ils ont des pensées, ils veulent entreprendre, mais dans quelles conditions ils vont entreprendre? Dans un pays où il n'y a pas de voie d'accès, dans un pays où il n'y a pas de conditions vraiment favorables. Je crois que ce sont des difficultés là qui font à ce que beaucoup de jeunes vont dans des partis politiques justement pour se retrouver. Et si également aussi on arrivait à tenir le climat des affaires sur le plan juridique, il y a beaucoup de jeunes qui veulent également entreprendre, comme la dame a dit, mais ils sont habités à des difficultés, des contraintes juridiques. Pour avoir des documents de l'État, il faut, ça prend beaucoup de temps. Et également voilà, aussi la fiscalité. On peut avoir beaucoup d'idées d'entreprendre, mais on se soumet à plusieurs taxes et impôts dits à l'État. Donc si on arrivait à mettre un climat d'affaires assaini au niveau du pays, je crois que beaucoup de jeunes n'iront pas dans des partis politiques pour trouver mieux et d'entreprendre, et même M. Marcel.
Voilà, merci beaucoup Peter Maboudi d'avoir réagi depuis Kinshasa. Puis on reste à Kinshasa pour écouter Kimbeza Gaston. Kimbeza Gaston, vous avez la parole.
Merci Radio Capi, merci aux auditeurs et à l'invité. Le sujet est tellement intéressant que les minutes que nous avons ne suffisent pas, mais néanmoins, nous allons quand même donner notre point de vue.
Bon, allez-y.
Je pense qu'il faudra que l'invité nous dise clairement qu'est-ce qu'il faut pour que les gens entreprennent. Les conditions dans lesquelles nous vivons, le pays, la politique, ne nous donne pas les avantages d'entreprendre. Monsieur Marcel, même dans certains marchés privés ou publics, moi je suis ingénieur, c'est pas mon domaine, j'ai fait le BTP, ou être sélectionné, ou être désigné comme adjudicataire dans un marché, vous devez avoir une obédience politique. Donc si les jeunes se donnent aujourd'hui en politique, c'est parce que la politique paye mieux, la politique contrôle tout dans ce pays. Je vous donne un exemple. Je connais un ami qui a voulu entreprendre comme on conseille à tout le monde d'entreprendre. Il a fait une pharmacie et il passait toute une semaine pour avoir les courants de fils 15 jours. Vous croyez que les conditions, dans ces conditions-là, les médicaments peuvent être bien conservés? Les courants, ça revient ici aux politiques de décider, assez comme nous avons l'impression dans les pays. Aujourd'hui, un jeune qui ne peut pas être entrepreneur. Je ne connais pas un jeune qui peut prétendre d'avoir aujourd'hui à Kinshasa et même au Congo 5 rendez-vous par jour. Il ne peut pas les réaliser. Vous êtes des embouteillages partout, il n'y a pas de route. Et vous devez encourager les gens à devenir entrepreneurs. Ça, c'est la politique. Les routes, ce n'est pas les initiatives privées. Ça, c'est l'État. Et je vais aller plus loin. La formation ne pose pas de problème. Pas du tout, selon moi. Parce que le même programme que nos parents ont subi, nous avons suivi le même programme. À l'époque, les parents nous disaient, lors de la défense, il y a des entreprises qui s'installaient là-bas. Juste après la défense, vous êtes directement sélectionnés. Mais aujourd'hui, quelles sont les entreprises de l'État qui passent par les universités pour prendre ceux qui terminent? Il n'y en a plus. Et vous allez dire que les jeunes n'entreprennent pas. Ils entreprennent. Pourquoi les gens doivent aller en politique? Dans le contexte actuel, je dis, l'invité me dira à la fin, pourquoi quitter la politique? Dans le contexte actuel, il faut faire la politique. Parce que déjà, en politique, on ne réfléchit pas. On trouve une idéologie qui est là. C'est que le chef vous dit, c'est ça. Et lors des partages des entreprises, des postes, c'est la politique qui joue. Même les entreprises publiques. Je ne connais pas un test qui a été organisé où il n'y a pas de quotas des partis politiques. Et donc, je pense que le discours doit être changé. Il
faut bah, merci, merci, Kimbeza. Merci, Kimbeza. Donc, tout est politisé dans ce pays et ça pourrit la vie en RDC. Il faut voir comment changer tout cela. Merci, Kimbeza, depuis Gaston Davapé, depuis Kinshasa. On reste encore à Kinshasa. Cette fois-ci, pour écouter Sylvain Douma. Sylvain, vous avez la parole.
Oui, bonjour, monsieur Marcel. Merci à l'invité. Bonjour à l'invité et ainsi qu'à tous les auditeurs. Le sujet est tellement intéressant, mais je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Normalement, on devrait prendre du temps de les décortiquer. Je disais pourquoi il y a un afflux de jeunes dans la politique, mais parce que la vie politique n'est pas moralisée. Aujourd'hui, on se rend compte que une même personne peut être candidat au municipal, aux urbaines, aux provinciales, au national ou encore à la présidence de la République. Alors je pense qu'on doit réviser la loi électorale. Et c'est comme ça, ceux qui ont une certaine influence s'arrogent ce pouvoir-là. Et de l'autre côté, vous parlez de la justice. Moi, je ne pense pas que ce soit la justice qui affaiblit le commerce dans notre pays. Mais ce sont, bien entendu, les politiques. Nous avons une loi qui parle de petit commerce ou bien de commerce en détail. Aujourd'hui, les expatriés, ils devraient importer, ils sont des grossistes normalement de par la loi. Ils ne pouvaient pas exercer les petits commerces, il y a une loi qui existe comme ça. Il faut mettre en œuvre cette loi-là pour laisser la possibilité aux petits Congolais, aux petits investisseurs de compétir aussi dans ce domaine-là. Alors, laisser les expatriés qui ont de gros moyens compétir avec ceux qui ont des petits moyens sur le même terrain, c'est toujours difficile. Et de l'autre côté, je pense que nous n'avons pas de banques commerciales encore d'investissement. Toute la plupart des banques que nous avons sont tenues par les étrangers. Mais ils ont des conditions, ils vous demandent des garanties, les taux d'intérêt qui sont des fois excessifs. Les gens ne peuvent pas. Alors, l'État doit créer des conditions, créer aussi des banques. À l'époque, nous, on n'était pas là parce que peut-être on était petit, on a parlé à l'époque de Mobutu, il y avait quand même des institutions bancaires à caractère national qui aidaient et certains citoyens congolais à évoluer. Mais aujourd'hui, la difficulté, c'est celle-là. Il y a des idées, il y a des projets, mais sur le plan de la réglementation, il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de sécurité que l'État assure. Et lui-même, aujourd'hui, nous n'avons que les FPI, peut-être. Et vous voyez là, d'ailleurs, je trouve ça mal. Les FPI ont dit font des promotions de l'NDC, mais vous voyez certains projets que les FPI financent, Ils n'ont pas de rapport avec l'industrie. Mais pourquoi les FPI arrivent à le faire? Parce que c'est un politicien qui est allé solliciter, il a exercé son influence, et la personne qui est directeur général là-bas, comme il ne pouvait pas se soustraire à l'emprise de politique, il obéit, mais au finish, ses prêts aussi n'est pas remboursé, et les FPI aussi étaient mettés aujourd'hui. Voilà, c'est cet ensemble de choses-là. L'État doit revoir les choses. Et ça va donner le goût aux jeunes d'aller entreprendre dans ce monde du commerce là. Voilà. C'est pas une question d'idées, les idées sont là. Les conditions sur le marché ne permettent pas.
Merci beaucoup Sylvain Louma depuis Kinshasa. Avant de retrouver notre invité, on va aller à Vienne, en Autriche, pour retrouver Franck. Franck, vous avez la parole.
Oui, merci beaucoup à vous tous en studio. Merci à l'invité. Merci pour les objections pertinentes présentées. Et M. Marcel, dans la plupart des cas, quand j'interviens sur vos ondes, je ne cesse de revenir sur un concept, l'éducation, la place de l'éducation et la valeur de l'éducation. Je suis personnellement content que l'invité l'ait convenablement explicité parce que dans un pays qui veut se développer, dans un pays avec une population encore jeune, si on n'a pas une politique éducative claire, les conséquences sont très multiples. Le danger, c'est que dans notre pays, depuis un certain moment, on n'a même plus de politique éducative. Au-delà de tout ce que nos hommes politiques viennent parfois nous dire sur vos zones ici et là, il y a ceci, il y a cela. Mais dans un pays, on ne doit pas seulement faire l'université pour gagner la vie. Et on a détruit tous les tissus éducatifs. Si bien qu'il y en a qui pensent que pour devenir quelqu'un, je dois absolument être gradué, licencié et adhérer au sein des partis politiques. Et malheureusement, on a un pays avec autant de politiques. Notre système économique est par terre. Notre système bancaire est par terre. Notre système culturel est par terre. Notre sociologie, donc, Tout le monde veut devenir politique alors que le pays est en train de se noyer. Bon, quand on arrive à interpeller dans un pays où il y a des grandes injustices, c'est là où il y a beaucoup de problèmes. Donc moi, je trouve personnellement qu'il faut tout refaire. On ne doit pas seulement voir l'homme, il faut l'homme d'abord, mais il faut aussi qu'on retravaille cet homme à partir de la base. Parce que dans la plupart des cas, si nous devons nous adresser aux décideurs, mais ce sont les mêmes décideurs qui doivent changer ceci, qui ne le font pas. Depuis quand vous organisez des émissions sur Parole aux auditeurs, Dialogue entre Congolais, Okapi Action, mais ce sont des émissions avec des suggestions très très pertinentes, très très instructives, mais parfois on cesse de se demander qui nous suit. Est-ce que vraiment on prend en considération tout ce que les gens disent? Et dans un pays ne peut jamais se développer seulement avec des politiciens. Non! On doit devenir politicien. On est en train de détourner l'art de la politique. La politique, c'est une activité qui s'exerce dans sa globalité. La politique, c'est un art. La politique, c'est une science. La politique, ça peut devenir une activité lucrative. Ça peut être, on doit l'enseigner, mais comment on enseigne la politique? C'est au niveau de l'organisation de la police de la cité. Donc, chaque bon politicien, si nous devons nous référer aux fondamentaux grecs, ça devait d'abord être un homme vertueux à qui on devait confier la gestion, la responsabilité de la gestion de la cité. Mais ça ne devait pas être un parvenu, ça ne devait pas être un opportuniste. On devait le confier à quelqu'un qui a une vision et qui travaille pour le bien collectif. Mais malheureusement, la politique dans l'optique congolaise est seulement devenue une industrie où on peut commencer le matin, le soir, on devient millionnaire. Mais c'est comme ça que les pays n'avancent pas.
Oui. Mais Franck, il y a quand même ces côtés, en tout cas, qui relèvent du paradoxe. Lorsqu'on parle des gens bien formés, il y a tout de même des gens bien formés, mais une fois qu'ils arrivent aux affaires, on ne reconnaît plus ces personnes. Il y a plutôt que de travailler pour l'intérêt de la communauté, ils deviennent plus égoïstes même que ceux qu'ils ont trouvés. C'est un paradoxe aussi dans ce pays.
Oui, là, je vous donne tout à fait raison. Il y a les gens bien formés. Je crois que là, je dois m'expliciter en disant on doit avoir des gens vertueux, des gens avec des valeurs morales et ceux qui ne sont que des diplômés. Donc, on développe trop les cultes de la diplomie. Les gens se battent pour avoir des titres de doctorat, des titres, mais aucun pays ne peut seulement se développer avec tous ces titres-là. Personnellement, je suis en train de dire nous avons autant d'intellectuels, nous avons autant de diplômés, nous avons autant de docteurs, mais il nous faut encore avoir des citoyens congolais avec des valeurs morales qui aiment leur pays, des gens qui ont une vision et une détermination pour faire avancer les choses. Donc, si on a seulement des intellectuels qui sont des sophistes, le matin, ils défendent, l'après-midi, ils changent de camp, mais c'est à ce niveau-là aussi qu'on se demande quelle est la vraie place de l'intellectuel congolais dans le processus de développement de son pays? La plupart des intellectuels nous déçoivent. Mais moi, quand je parle des gens vertueux, je ne fais pas seulement allusion aux intellectuels. Non, ce sont des gens qui ont des valeurs morales, des gens qui sont des sages, qui ont quand même une conscience en place et non des opportunistes, des égoïstes. Et je crois qu'il y a une maladie, une gangrène dans la mentalité congolaise. L'invité a parlé de l'estime de soi. Il y a d'abord l'égoïsme qui nous plonge dans le tribalisme, le régionalisme.
Merci.
Et tout ce qui suit là, c'est l'égoïsme.
Merci beaucoup, Franck, depuis Vienne. Je reviens à notre invité, Maître Dieudonné Chibobo, qui est avec nous dans ce studio. Maître, des gens vertueux, des gens formés, des gens compétents. Est-ce qu'il n'y en a pas un RDC?
Je suggère attentivement la plupart d'interventions qui sont pertinentes. Je veux dire ceci. Je vais partir étymologiquement. L'art de diriger, de gouverner. Être responsable. Responsable, deux significations. Vous gouvernez, vous dirigez. Responsable, une autre signification, vous devez rendre compte, votre responsabilité. C'est là où souvent ça, le bas blesse parce que on ne rend pas des comptes, comme la plupart l'ont dit. On est dans l'impunité et il y a des conséquences. Je ne vais pas parler de la justice aujourd'hui. Il faut d'abord qu'une personne qui veut être responsable sache que si je travaille mal, j'aurai des responsabilités. Et là, je vais simplement dire que malheureusement, il y a une grande faiblesse ici au niveau institutionnelles et dans nos lois, parce que beaucoup sont dans l'impunité. Je ne vais pas revenir sur le débat, sur les privilèges, les juridictions, tout ce qui s'ensuit. Mais ça, c'est notre débat. Donc, redevable et responsable. Maintenant, je prends des cas pratiques. Vous allez voir un pays comme la Suède, où vous ne payez rien en tant que politicien sans facture. Vous ne recevez rien sans facture. Et des fois même, vous devez vous-même financer et revenir pour qu'on vous paye. Ça s'appelle la gestion de la chose publique. Quand vous voulez être politicien, il faut savoir que c'est une chose publique, ça appartient à tout le monde. Et vous devez avoir des process pour respecter la chose publique, ce qui n'est pas le cas ici. Pourquoi ? Parce que le modèle qu'on a, c'est un mauvais modèle. Premièrement. Deuxièmement, vous allez voir qu'ici, il y a la survie. On est dans la survie. Et c'est ainsi que beaucoup, c'est tout à fait une réaction normale, vont dans les endroits où ils peuvent essayer de vivre, les partis politiques. Je ne veux pas les condamner, mais simplement, il faut ramener les gens dans le bon sens, en disant que ce que vous cherchez, il y a à mieux être, si vous pouvez vous-même l'avoir sans pouvoir être dans un parti politique. Mais là où se trouve la responsabilité de l'État, c'est qu'il faut mettre en place des mécanismes pour soutenir ces gens-là. Si l'État met en place un mécanisme efficace, par exemple d'encadrement de formation et de financement, là, on peut déjà faire quelque chose. C'est là où se trouve la politique gouvernementale. Malheureusement, au Congo, tout est politique. Et il faut arriver même des fois à protéger les locaux. Il y a des exemples, le cas de la Chine, le cas du Nigeria, de l'Afrique du Sud. Il y a même ce qu'on appelle des fois dans l'entrepreneuriat, il y a des mécanismes qui protègent l'entrepreneuriat local. Ce qu'on appelle local content. Qu'est-ce qui doit revenir à ceux qui sont congolais? Le problème, c'est qu'ici, malheureusement, nous n'avons pas de souveraineté économique. Tout est entre les mains des étrangers. Je ne suis pas xénophobe économique parce que moi-même, je vis à l'étranger également. Mais simplement, il faut penser à protéger les Congolais dans l'entrepreneuriat. Sur ça, on peut dire beaucoup de choses. Mais l'éthique aussi doit être une valeur qu'on doit privilégier. Le problème est où, Marseille? Aujourd'hui, au Congo, ce n'est pas la responsabilité simplement des politiciens, mais chacun doit être conscient de ce qu'il fait. Quelle est votre éthique? C'est ça la difficulté. Nous sommes dans un pays où il y a un laisser-aller. Prenez simplement le cas de l'anarchie que nous vivons chaque jour sur nos routes, qui reflète la société. Nous devons réfléchir notre société différemment. Chaque fois, chaque jour, je me lève, quand je suis au Congo, je dis, ouf, mais par où allons-nous commencer, par où allons terminer? Il faut des fois avoir une méthode forte. Moi, je regarde par exemple ce qui se passe en Chine, la méthode forte qu'ils ont utilisée pour arriver à ce niveau-là. Je regarde ce qui se passe au Brésil. On peut voir ce qui se passe ailleurs pour adapter chez nous. Un, avoir, savoir c'est quoi, qu'est-ce que nous attend quand on veut être dirigeant. Deuxièmement, si, comment l'État peut soutenir les gens à être entrepreneurs sans verser dans la politique. C'est vrai, il n'y a aucun monde où la politique ne s'y mêle pas. Il y a toujours des incohérences. Mais la politique doit être un surplus. C'est ça la difficulté. Un pays ne se développe pas par la politique. Un pays se développe par l'entrepreneuriat. Et moi, je suis en train d'encourager les jeunes, surtout les jeunes, qui ont encore des possibilités de réfléchir, d'entreprendre. Il faut aider les jeunes. J'ai eu la dame qui a parlé de l'information. Beaucoup ne s'intéressent pas. Parce qu'ils doivent vivre. Vous pensez que quelqu'un a le temps de commencer à aller suivre une formation alors qu'il doit vivre au quotidien? Ce sont les réalités des paramètres qu'on doit se rendre compte. Et quand un parti politique organise une matinée politique, les gens vont parce qu'on leur donne un petit per diem. Non. Donc ça, c'est à l'État aussi de réfléchir pour soutenir justement l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, qu'on peut balayer. J'ai entendu l'autre, un intervenant qui disait, qu'est-ce qu'il faut pour que les gens entreprennent? J'ai dit, c'est l'État qui doit mettre en place des mécanismes. C'est simplement ça, l'État. Moi, je ne suis pas gouvernant, je ne peux que donner des idées. Ça, c'est à l'État. Et nous devons interpeller l'État. Comment interpeller l'État maintenant, la population? C'est justement quand vous allez faire le choix de vos dirigeants que vous pouvez interpeller. Mais le problème est où? Nous, la population. Quand un dirigeant, quelqu'un, vous savez bien qu'il a mal travaillé. Vous arrivez au vote, parce que vous devez lire maintenant ceux qui vont vous diriger. Vous allez encore donner votre voix à cette personne parce qu'elle vous a donné un t-shirt, parce que c'est votre cousin, votre tante et autres. Donc vous-même, vous êtes responsable de votre souffrance. Donc faites des choix également utiles pour ceux qui doivent porter la responsabilité pour diriger et mettre en place des politiques qui vont vous permettre de vivre correctement, simplement. C'est ça que moi je peux donner comme conseil. Voilà. Marcel, je ne peux pas terminer sans mon maître mot.
Non, on a des auditeurs qui vont réagir et puis on reviendra vous pour conclure. Olivier Maviamboula nous appelle depuis Kisangani. Olivier, vous avez la parole. Olivier a des problèmes avec son téléphone. Là, on ne sait pas suivre Olivier dans ces conditions. Alors, on va à Goma pour retrouver Dr. Mikael Bolingo. Dr. Mikael Bolingo, vous avez la parole.
Oui, merci beaucoup. Je salue l'invité et la radio Capi pour ces débats d'aujourd'hui, combien de fois très nécessaires. Alors, je félicite ce qu'a dit Monsieur Peter Maboudi. C'est vraiment très capital. Mais moi, ce que je voulais ajouter, aujourd'hui, nous sommes en train d'être alertés par rapport à la révision de la Constitution. Voilà les éléments dont il fallait nous parler. Il faudrait que ces gens puissent avoir des arguments en faveur du changement de la Constitution. Parce que tous ceux qui sont en train de faire aujourd'hui, aucun Congolais n'est content, s'il vous plaît. Alors, je prends les derniers mots que l'invité venait de dire. C'est nous qui élisons ces gens. Très cher invité, ce que je voulais vous dire par là, c'est quoi? Il faudrait qu'on change notre façon aussi des élections. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens, beaucoup de députés sont aujourd'hui élus, c'est pas par la volonté du peuple. C'est parce qu'ils ont été nommés par les pouvoirs en place. Alors, pour des gens pareils, vous voulez qu'ils soient redevables envers notre population comme ça? C'est tellement difficile. Raison pour laquelle, c'est que nous devrions proposer comme idée, c'est quoi? Il faut revoir d'abord notre loi électorale. C'est quelque chose qui ne nous avantage à rien. Il faudrait revoir aussi quelque part certains articles de la Constitution, parce qu'on ne comprend pas comment certaines personnes ont déjà fait la politique non seulement comme une carrière, mais aussi comme leur propre champ donc leur parcelle. Ils gèrent les gens tels qu'ils veulent. Voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à ça. Mais les amis ont déjà dit tout le nécessaire.
Merci beaucoup.
Et nous sommes suffisamment contents de ce qu'ils ont dit, que le président de la République, le gouvernement, puisse suivre quand même les interventions des correspondants de la radio.
Merci beaucoup, Dr. Mikael Bolingo, depuis Goma. Bon, Olivier,
c'est Olivier Maziambola, depuis la ville de Kisangani.
Allez-y, Olivier, oui.
Ouais. Oui, nous disons que l'intérêt croissant des jeunes Congolais à se lancer dans la politique reste très motivé suite à l'ascension sociale. Les gens qui ont intervenu avant moi, ils ont souligné cette nécessité. La carrière politique en RDC reste très attractive et rémunératrice. Cela ouvre aux jeunes Congolais une voie d'ambition pour accéder à une classe sociale très élevée. Il suffit peut-être de voir le montant que toucherait un député national, un ministre national ou un président de la République pour comprendre cela. Alors, pour répondre à cette problématique, il faudrait peut-être créer des opportunités dans tous les secteurs de la vie.
Olivier, il me semble qu'il n'est plus en ligne. Ben voilà. Olivier n'est plus en ligne, mais au moins il a essayé de réagir, de dire ce qu'il pensait de cette question, de cette course effrénée des jeunes et beaucoup d'intérêts congolais vers la politique, dont il estime qu'il faut que l'État puisse créer des conditions dans tous les secteurs de la vie nationale qui puissent permettre aux Congolais de se prendre en charge autrement. Voilà, on va retrouver notre invité et avec lui, on pourra conclure. Maître Dieudonné Tshibwabwa, c'est vrai, la situation est celle-là, mais comme on le dit toujours, il faut continuer à espérer, il faut continuer à croire à ceux qui nous gouvernent que il faut cette prise de conscience, parce que il faut absolument que le pays aille de l'avant, mais il y a cette question cruciale, il faut de plus en plus arrêter de tout politiser.
Oui, Marcel, et j'aimerais dire à tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, le Congo est notre patrimoine commun. À tout le monde. Mais avant de clôturer, j'aimerais vous lire simplement l'article 58 de la Constitution actuelle qui dit « Tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. L'État a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir les droits au développement. » Pour dire que tous les Congolais ont le droit de bien vivre et de profiter de ce qui est chez eux.
Et qu'est-ce qui doit être fait ? concrètement pour que tous les Congolais puissent en profiter?
Il faut qu'il y ait une justice sociale. Il faut une redistribution équitable, permettre à chacun de pouvoir vivre correctement. C'est ça, c'est la responsabilité de l'État. C'est l'alinéa 2. L'État a le devoir. C'est ça. Les politiciens qui mènent justement l'action au niveau de la gouvernance doivent mettre en place sa politique. Tout ce que nous avons dit, c'est la responsabilité de l'État. Ça, il faut le retenir. Maintenant, je vais dire une chose, Marcel. On ne peut pas perdre d'espoir. Ce n'est pas le seul pays qui a connu ce genre de difficultés. Il y a d'autres pays qui ont pu s'en sortir. Et ça, on touchera des questions profondes sur notre modèle politique, notre modèle de gestion. J'ai beaucoup apprécié une personne qui a parlé de la Constitution. Effectivement, il y a des choses à revoir. Le modèle que nous avons choisi a malheureusement démontré ses limites. Et devons-nous arrêter de réfléchir? C'est ça. Parce qu'on doit s'améliorer. Tout ce que nous disons, c'est pour l'intérêt de tout le monde, l'intérêt du Congo, du moins. Mais est-ce qu'on doit continuer avec le modèle que nous avons choisi dès le départ? Je pense que la réponse, chacun a sa réponse. Tout ce que moi je peux encourager, c'est que ceux qui dirigent, simplement, puissent entendre. Parce que c'est pour l'intérêt de tous. Parce qu'on n'est pas dirigeant tous les temps.
Maître, pardon, un petit commentaire, parce que ça c'est une réaction que je viens de découvrir tout à l'heure. C'est la réaction de Aristote Venance qui nous écrit: pour émerger à tout cela, il faut réformer en profondeur le système politique et judiciaire, ça vous l'avez dit. La promotion de l'entrepreneuriat accompagnée de politiques incitatives fortes pour les jeunes peut offrir des alternatives économiques viables. Par ailleurs, la mise en place de lois plus strictes sur la transparence des finances publiques et la gestion des biens de l'État.
Oui, mais attention, c'est mise en place stricte, mais les lois existent. Mais c'est l'application de ces lois.
Et là, donc les lois sont déjà là, mais c'est là. Plutôt
l'application de ces lois. C'est ça le problème. Et quand, malheureusement, vous avez une certaine position, vous avez du mal à subir la rigueur de la loi. Mais ça, c'est tout le système qu'on doit réformer, le système judiciaire, l'exécutif, tout ça. Mais les lois sont là. On peut peut-être les renforcer, mais elles existent. Il faut apprendre, avoir le temps de lire des lois en matière, par exemple, de passation de marché, en matière de marché public, de financement. Les lois existent. Même un auditeur tout à l'heure a parlé du financement FPI qui est sélectif parce que vous avez une position. Voilà. Mais il faut revoir tout ça. Mettre aussi les animateurs qui vont veiller effectivement à l'application de ces lois sans complaisance. Ça, c'est le plus important. Mais comme je termine toujours par une note positive, on ne doit pas perdre d'espoir. Quand on aime le Congo, il y a moyen que tout le monde mette sa main à la pâte pour le bien-être du Congo. Il y a toujours un reste des gens qui réfléchissent pour le bien-être du Congo. Donc moi, je dis aux auditeurs, avec ce genre d'initiatives, ce genre d'émissions, ça nous aide à réfléchir, à voir qu'on peut aller, on peut faire mieux, et que si nous nous mettons tous ensemble, nous pouvons aider ce pays à aller de l'avant. C'est ça que je peux dire. Aimons les Congo.
Aimons les Congo. Merci beaucoup, Maître Dieudonné Tshibabwa. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Bruxelles en Belgique et de Kinshasa, Gombe, de Kananga, RDC. Merci d'avoir été des nôtres. On espère vous retrouver prochainement. Et voilà, fin de ce numéro de Parole aux auditeurs de séjour. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à Justine Siala qui est à la mise en onde, à Julie Feza Bungunda qui l'a réalisé. Coordonné micro, c'était Marcel Gomombal. Au plaisir de vous retrouver dans un prochain numéro de votre magazine des champs citoyens Parole aux auditeurs. D'ici là, bon suivi de programme sur la fréquence de la paix. Au revoir à toutes et à tous.